je suis vraiment très très heureux de pouvoir participer à cette entreprise. Alors effectivement, je vais vous parler du Smith, de la théorie des sentiments moraux, parce que c'est même encore aujourd'hui un auteur qu'on connaît beaucoup plus dans sa contribution à la théorie de l'économie. Et il me semble que malgré tout, le problème de la théorie des sentiments moraux est un problème tout à fait important, parce qu'il contribue probablement à cette généalogie ou à cette histoire de la genèse des théories sur les normes qui vous préoccupent tant. Alors je voudrais dans un premier temps un petit peu préciser le cadre dans lequel je vais intervenir et fixer le parti pris qui sera le mien. Aujourd'hui, la question du problème d'Adam Smith, comme on a pu le dire, c'est-à-dire le problème de la cohérence entre deux œuvres principales, la théorie des sentiments moraux, 1759, et la richesse des nations, 1776, n'est plus fondamentalement une difficulté qu'il convient de surmonter. L'historiographie smithienne ne retient plus comme un obstacle l'interprétation des rapports qui existent entre la théorie morale d'un côté et la théorie sociale ou théorie socio-économique de l'autre. Et si cette question des rapports a pu être entre guillemets résolu, c'est parce qu'on s'est efforcé de penser les principes qui organisent le caractère systématique de l'œuvre. Et parmi ces principes, il me semble qu'il faut retenir notamment le statut théorique de la sympathie, parce que la sympathie apparaît dans sa théorie comme un opérateur formel du jugement moral, comme ce qui rend possible une théorie des passions, et enfin comme un principe d'articulation complexe entre, d'un côté, la construction interactive des normes, des distinctions morales, et de l'autre, évidemment, la délimitation d'une forme sensitive, le champ d'une aesthésis, d'un sens pratique, qui donne effectivité à ces normes. Alors, de quoi s'agit-il? Pour comprendre un petit peu ce qui fait l'originalité et la force de la théorie des sentiments moraux chez Smith, il faut le recadrer un peu dans un contexte, qui est celui de la crise, et là je me rapporte à ce qu'on dit Jean-Michel Vienne dans son très beau livre « Expérience et raison, les fondements de la morale chez Locke », celui de la crise des théories morales à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. La question posée par Locke, dès les essais sur la loi de nature, reprise et amplifiée par l'essai philosophique sur l'entendement humain, est double. D'un côté, peut-on démontrer rationnellement, dans le cadre d'une épistémologie et d'une méthodologie empiriste, l'existence d'un référent universel, d'une loi de nature, à l'aune de laquelle rapporter toute forme d'expérience subjective, et ainsi conférer au travail de la raison qui construit des relations, une forme d'objectivité, la vérité dans le champ de la connaissance, le bien dans le champ pratique de la vie morale. D'autre part, et plus particulièrement dans la sphère de la vie morale, comment redonner aux distinctions praxéologiques une effectivité, c'est-à-dire une forme d'opérativité qui garantisse leur pouvoir de faire. Car si le travail de la raison réduit l'arbitraire des justifications par intuition première, d'un contenu par exemple la Saint-Thérèse chez Saint Thomas, s'il donne au sujet le pouvoir de découvrir la loi de nature, le pouvoir de s'accorder rationnellement sur un contenu, il disjoint corrélativement ce qui jusque-là était lié, le contenu des distinctions morales et leur dimension d'obligation. Donc la possibilité même d'un travail rationnel avait pour conséquence de séparer et de confiner le moment de la justification rationnelle des distinctions dans l'ordre de la pure discursivité et celui de la détermination affective de la volonté dans le champ pratique. Donc, les dimensions cognitives et normatives, la légitimité des contenus et la légalité des contraintes, tout cela ne pouvait plus désormais être tenu ensemble. C'est cette disjonction de principes qui pose le caractère problématique des théories morales à partir de Locke dans la tradition empiriste moderne. Pour le dire en d'autres termes, le problème des normes morales chez Locke ne relevait plus exclusivement d'un argument ontologique qui jusque-là permettait de confondre l'horizon cognitif et l'horizon pratique, il apportait de penser à nouveau frais la liaison entre connaissance des distinctions morales et obligations. Et c'est cet espace d'indétermination, lieu des reformulations ultérieures de la question morale, qui autorisait des types de réductions très divers. Pour certaines, par exemple, il s'agissait de revendiquer un naturalisme, d'autant plus arbitraire qu'il confiait à la morphologie d'une nature, le sens moral, le soin de poser immédiatement et dans le moment même de l'expérience les principes de nos distinctions morales. D'une certaine façon, Locke anticipait lui-même les difficultés des théories du sens moral, par exemple d'un Shaftesbury ou d'un Hutcheson, par avance il les dénonçait au motif que l'arbitraire de la nature ne vaut pas mieux que celui des vérités intuitionnées ou des idées innées, et que dans les deux cas, il n'y a pas de place pour la justification individuelle et rationnelle de ces mêmes distinctions. Pour d'autres, il s'agissait au contraire de porter, par un artificialisme radical, les principes accordés à nos distinctions morales, mais aussi bien de s'exposer à cette limite, la perte de tout universel, ne permettait pas de sortir véritablement de l'atomisme de l'expérience individuelle. Le passage nécessaire de la particularité de l'expérience à l'universalité de la relation morale se trouvait donc dangereusement compromis, faute de pouvoir se rapporter en commun à un au-delà de l'expérience, une loi ou une norme transcendante. Plus encore, ce que pouvait préserver un moment le naturalisme du sens moral, qui confiait au sens le pouvoir de déterminer les conduites, se trouvait définitivement congédié dans le rationalisme, laissant entière la question de l'effectivité des normes morales. Du naturalisme au rationalisme, l'espace des solutions et des formulations possibles est donc vaste. Il ne s'agit pas ici de les considérer, je veux seulement indiquer que c'est dans ce contexte, dans cet espace, que l'on peut aussi comprendre la force, l'originalité et probablement les difficultés de la résolution smithienne de la question de la théorie des normes. Alors on peut en effet poser la question suivante. De quelle manière et avec quels outils conceptuels Smith, après Hume, entreprend de résoudre la question de la théorie morale, ainsi que nous l'avons posée? Alors ce serait une erreur de penser qu'en posant la question à propos de la moralité, nous nous interdisons de comprendre comment Smith engage plus généralement le problème des normes sociales, ou pour le dire avec ces termes, la question du gouvernement des sociétés. Certes, l'espace de la moralité et l'espace de la société ne sont pas identiques. L'intérêt n'est pas la bienveillance, et la forme générale de la relation sociale trouve son principe dans la reconstruction génétique des formes de la relation morale chez Smith. S'il propose une théorie des sentiments moraux, c'est aussi parce que le sentiment moral et le nexus à partir duquel il comprend la forme générale de la relation sociale. La relation morale, par le moyen de laquelle Smith pense la possibilité d'un sujet moral autonome, est alors l'occasion de poser la relation sociale, c'est-à-dire de rendre compte de la constitution du sujet social. De la vie morale à la vie sociale, de la bienveillance à l'intérêt, de la société florissante et bienveillante au marché anonyme et prospère, se dessinent les limites d'un autre espace, qui est à comprendre comme articulation de régimes de normes différenciés, pas nécessairement divergents, au moins dans la période du moment anglo-écossais. C'est donc à partir de la théorie morale que j'envisage de parler de la question des normes chez Smith, parce qu'il me semble que le problème de la norme sociale, par quoi régler les conditions de la coexistence, est avant tout un problème de normes morales. Alors je sais bien en affirmant cela que je prends le contre-pied de toute une série de lectures apologétiques sur la naissance du libéralisme, la naissance par émancipation, par séparation de la morale avec le social. Je vous renvoie par exemple aux hypothèses classiques de Louis Dumont dans Homo Equalis, aux hypothèses qui me semblent assez faibles de Pierre Rosanvallon dans Le capitalisme utopique, ou à celles parfaitement métaphysiques de Marcel Gauchet dans Le désenchantement du monde. Il me semble que l'un des acquis de l'historiographie récente sur les Lumières écossaises est justement de montrer que la modernité politique ne se construit pas nécessairement sur le principe d'une émancipation ou d'une séparation de la politique et de la morale. L'œuvre de Smith, me semble-t-il, en témoigne, et elle témoigne surtout du fait que la séparation entre ordre moral et ordre social n'est pas ce qui permet de penser la coexistence. Et cette œuvre est, me semble-t-il, une tentative continuée pour comprendre et reprendre les liens entre la morale et la société. C'est donc à travers une reformulation de la question morale, en tant qu'elle doit statuer sur le problème de l'origine de nos distinctions et sur l'effectivité de leur caractère contraignant, que Smith se donne les moyens de comprendre ce qui fait la force du lien social et ce qui donne à l'individu les moyens de coexister avec son semblable. Il me semble qu'il y a encore une autre originalité qui justifie le choix de cet auteur et cet angle de lecture, c'est-à-dire celui des normes. L'ambition du propos smithien n'est pas de reconstruire seulement la liaison entre contenu de nos distinctions morales et dimension motivationnelle des normes qu'elles enveloppent, elle est également de proposer une description de cette genèse qui ne présuppose pas, au départ tout au moins, un extérieur à la relation sympathique, c'est-à-dire à l'interaction individuelle. En d'autres termes, le raisonnement ambitionne d'être radicalement individualiste et de tenir pour établi seulement que ce qui est donné dans la nature de l'homme en tant qu'il est susceptible d'affection et de réflexion. C'est donc la scène de théâtre qui unit, dans une interaction fine et habile, un être principalement concerné et un spectateur, qui sera l'occasion de déployer les formes primitives de la relation sociale et de montrer comment leur développement donne consistance tout en même temps à l'espace de la moralité et plus largement encore à celui d'une société. Je souhaiterais donc procéder en deux temps. Dans une première partie, je voudrais identifier et montrer comment fonctionne l'opérateur de sympathie. Il s'agira principalement de revenir aux déterminations anthropologiques qui rendent compte des propriétés de la sympathie et qui permettent de la définir comme un opérateur analogique. On se donnera ainsi les moyens de comprendre comment a lieu la genèse des normes morales et des conditions de leur validité. Je serai alors en mesure d'indiquer dans une seconde partie de quelle manière un tel fonctionnement autorise la distinction dans l'espace social entre deux régimes de normativité, l'un que nous pourrions qualifier de morale sociale, et porté dans sa genèse par le rôle du spectateur réel, comme figure réelle, c'est-à-dire comme observateur qui incarne en son principe un autrui généralisé, une forme individualisée et activée de la société. L'autre, que nous pourrions qualifier de morale pure, porté par le spectateur imaginaire et intérieur, dont on peut dire qu'il incarne en son principe un autrui absolutisé ou idéalisé, c'est-à-dire un autrui parfaitement impartial, Dieu. On verra alors que cette perfection du regard parfaitement impartial est une voie d'accès, pour le sujet moral, à la revendication d'une autonomie véritable du sujet. Cette reconstruction génétique a pour immense avantage, me semble-t-il, de poser le principe du non-alignement de la morale idéale, pure ou parfaite, comme on voudra, sur la morale sociale. Ainsi, l'élaboration smithienne est complexe et elle enveloppe dans un même mouvement la genèse des formes sociales de la contrainte ordinaire ou morale commune, qui est celle des spectateurs réels et impartiaux autant qu'il est possible, celle des observateurs qui, dans la scène de théâtre, qui est l'unité de lieu des descriptions, incarne le social, c'est-à-dire leur aptitude à contraindre. La genèse d'une forme parfaite de la contrainte extraordinaire, que nous pourrions encore appeler morale de la perfection, qui est celle du spectateur intérieur, « the man within », dit encore Smith, dont la forme efficiente se trouve hantée sur une définition de la perfection, celle de l'impartialité du regard, tout comme celle de la vertu accomplie du sujet concerné. Donc, premier point, l'interaction sympathique comme opérateur des distinctions morales. En fait, les propriétés de l'opérateur de sympathie sont au nombre de quatre. Trois que l'on trouve chez Hume et une quatrième qui est effectivement l'innovation proprement smithienne. Alors, je ne vais pas réussir à reprendre le détail de la comparaison, je m'intéresse simplement à les fixer pour comprendre comment elles contribuent à la genèse des distinctions morales. La première de ces propriétés, c'est celle de la communication des passions. La sympathie en tant qu'opérateur a pour effet de transfuser, c'est le terme de Smith, de transférer en un mot, de communiquer. L'agent et le spectateur communiquent et cette communication est analogique. Je cite, « Quelle que soit la passion provoquée par un quelconque objet chez la personne principalement concernée, une émotion analogue, je souligne, surgit à la pensée de sa situation dans le cœur de tout spectateur attentif. » Il s'agit d'une émotion analogue et comme on s'en doute ici, l'analogie vaut par la différence des intensités qu'elle enveloppe. On comprend ainsi le sens technique qu'il faut donner à la sympathie, non pas une simple empatheia, mais bien un opérateur qui produit, quelle que soit la passion originelle, une forme de communication. J'indique seulement que cette propriété de communication analogique est mise en scène par des procédés rhétoriques qui empruntent à la métaphore optique, changement et déplacement de point de vue, et à la métaphore topologique. Autant de métaphores qui dramatisent, qui mettent en image les déplacements, les changements de point de vue. La seconde propriété de cet opérateur consiste à affirmer que la sympathie est d'autant plus entière, complète, que le spectateur considère non pas simplement la manifestation de la passion sur la personne concernée, mais aussi les causes qui la déclenchent. Je cite, « La sympathie ne naît pas tant de la vue de la passion que de celle de la situation qui l'excite. » Autrement dit, l'opérateur ne joue véritablement qu'à condition de tenir compte du contexte, de prendre en considération la situation ou les circonstances. Il y a une dimension cognitive de la sympathie qui porte sur les causes de l'affection. Et l'adéquation des causes à l'affection est source d'accroissement sympathique. Et lorsque la sympathie est pleine et entière, elle constitue comme telle la norme d'une bonne adéquation entre cause et effet. En ce sens, la manifestation de la passion est convenable, acceptable pour le spectateur qui sympathise pleinement avec elle. La troisième propriété, c'est qu'entre le système des passions originelles, celui de la personne principalement concernée, et le système de la passion du spectateur, que Hugh Smith va appeler passion réfléchie, il y a une communauté de genre, mais une différence de degré. Les passions réfléchies sont plus faibles en intensité que les passions originelles. Et pour une raison toute simple, c'est celle de l'irréductibilité du moi vis-à-vis d'autrui. Le spectateur a toujours conscience, lorsqu'il sympathise avec la personne concernée, qu'il n'est pas l'autre et que la transposition reste imaginaire, même si elle est source d'affection. Par où l'on voit bien que les propriétés 1 et 3 conjuguent la dimension analogique de la sympathie, c'est bien l'identité de nature qui rend possible la sympathie, mais c'est aussi parce que spectateurs et personnes concernées sont dissemblables que la sympathie peut avoir lieu. La puissance analogique de l'opérateur tient précisément dans ce jeu de la ressemblance et de la différence. Alors la quatrième propriété, qui est là pour le coup identifiée par Smith, parce que les trois premières, on les retrouve sous des formes différentes chez Hume, consiste à dire que la sympathie est toujours source de plaisir. Il faut donc différencier la passion sympathique, qui peut être douloureuse ou source de plaisir selon la nature de la passion manifestée chez la personne principalement concernée, et l'existence d'un plaisir intrinsèque, qui est un plaisir propre à la sympathie et qui consiste dans ce plaisir que procure la conscience réciproque de sympathiser ensemble. Même à propos d'un chagrin, il est possible d'identifier un plaisir qui est celui de la communion, de la convergence des affections. Autrement dit, l'opérateur sympathique enveloppe deux sources d'affection. D'une part, celle qui porte sur les passions communiquées, d'autre part, celle qui est le propre de l'opérateur. Le plaisir intrinsèque de la sympathie est source d'approbation. Il vient s'ajouter à la constatation d'une coïncidence entre cause et affection. Il marque affectivement la convenance de la conduite. Comme tel, il motive l'approbation. De la même manière, l'opérateur sympathique peut, lorsqu'il cesse, chez le spectateur notamment, lorsqu'il constate qu'il n'accompagne plus la personne principalement concernée dans ses affections, être source d'une douleur. Alors d'une douleur qui est ici évidemment non pas une douleur spécifique à l'opérateur de sympathie, mais une douleur qui apparaît au moment où la sympathie cesse. Et cette douleur est alors ce qui manifeste la désapprobation, le désaccord. Elle radicalise donc ainsi la différence entre les deux protagonistes. Le plaisir est plutôt dans le moment analogique ce qui va tendre vers la ressemblance, et la douleur ce qui radicalise la distinction ou la différence. On peut donc dire que la sympathie, comme opérateur du jugement moral, déploie deux ordres d'affection. D'une part, celui qui est formé par le système des passions originelles et des passions réfléchies, la boucle analogique. D'autre part, celui qui est formé par le système du plaisir intrinsèque et de la douleur de frustration, qui oriente chez le spectateur, tout comme chez la personne concernée, les motifs d'approbation et de désapprobation. On voit donc que la liaison entre les deux systèmes, qui demeure principalement affective, car, chez Smith tout comme chez Hume, le jugement moral est d'abord plutôt senti que jugé, et bien cette liaison, elle est celle qui va de l'affection au jugement, c'est-à-dire, ici, l'approbation et la désapprobation. Ainsi, le plaisir constitue-t-il une approbation et la douleur une désapprobation, je cite encore Smith, approuver les passions des autres comme étant adéquates à leurs objets est la même chose qu'observer que nous sympathisons avec elles. Et ne pas les approuver comme telles revient à observer que nous ne sympathisons pas entièrement avec elles. Tant que la passion est prouvée par la personne principalement concernée et suivie donc par le spectateur, elle est approuvée. Dès lors que le spectateur ne partage plus l'intensité de celle-ci, elle est désapprouvée, c'est-à-dire envisagée comme inadéquate. Je cite encore Smith. Selon qu'il y a plus ou moins de disproportion entre les sentiments du spectateur et les miens, je dois encourir les degrés plus ou moins élevés de sa désapprobation. et en toute occasion, ses propres sentiments sont les normes, je souligne, et les mesures, je souligne, au moyen desquelles il juge les gens. La norme est ici avant tout une correspondance entre deux passions, celle du spectateur et de la personne concernée. On voit donc à ce niveau de raisonnement que la norme n'est pas posée, du moins en première analyse, comme ce qui vient de l'extérieur, elle est indiquée par une communauté d'intensité affective. Mais si l'on en restait là, il n'y aurait pas grand-chose de différent entre cette conclusion et celle d'un Shaftesbury ou d'un Hutchison. D'une certaine manière, ce qu'il prévoit encore ici n'est jamais qu'une forme naturalisée de l'évaluation. Mais alors, à l'arbitraire des intuitions premières, on ne ferait que substituer celle de la nature. Qu'est-ce donc qui garantit la légitimité de cette correspondance? Après tout, nous savons qu'en raison des propriétés mêmes de la sympathie, le spectateur peut insuffisamment sympathiser, par insensibilité par exemple, ou il peut insuffisamment considérer les causes de l'affection de la personne principalement concernée. Autrement dit, comment réduire ou résoudre le désaccord? Comment donner à la norme ainsi exprimée, c'est-à-dire éprouvée, un caractère d'objectivité qui la justifie comme critère de distinction morale? Alors la réponse est assez simple et elle est en même temps parfaitement ingénieuse. Le spectateur doit être à la fois désintéressé et impartial. La sympathie aboutit nécessairement au désintéressement et sur ce point, Smith reprend les raisonnements de Hume, puisque par construction, nous le savons, la communication des passions est hétéropathique et non pas idiopathique. Autrement dit, j'essaie de me mettre à la place de la personne concernée et il n'y a pas ici de processus d'identification. De ce point de vue-là, Smith reprend parfaitement le raisonnement qu'on trouve chez Hume, notamment dans l'enquête sur les principes de morale. Quant à l'impartialité, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant, elle est un résultat, je souligne. C'est-à-dire qu'elle s'obtient par le jeu de la sympathie réciproque. Je cite Smith. Tout comme la sympathie des spectateurs les conduit, dans une certaine mesure, à observer la situation avec les yeux de la personne principalement concernée, la sympathie de la personne principalement concernée la pousse à regarder sa situation, dans une certaine mesure, avec les yeux du spectateur. Autrement dit, il y a un va-et-vient passionnel, c'est-à-dire un mouvement itératif des transpositions imaginaires entre spectateur et personne concernée, qui va permettre de construire d'un côté l'impartialité, c'est-à-dire d'établir la condition de légitimité de la correspondance des affections entre protagonistes. Si le spectateur prend un certain plaisir à entrer, c'est le terme de Smith, dans la passion de la personne concernée va elle aussi éprouver un certain plaisir à, je cite, se mettre à la place du spectateur. Et pour conserver la sympathie réciproque, par un effort, chacun va chercher soit à augmenter l'intensité de ses affections du côté du spectateur, soit à réduire l'intensité de la manifestation de ses affections du côté de la personne concernée. Et ceci pour rendre l'affection convenable, c'est-à-dire acceptable, c'est-à-dire susceptible d'être partagée. Comme vous pouvez le constater, la recherche de la sympathie d'autrui est ici envisagée comme réciprocité naturelle. Pour autant que le spectateur peut, sous condition, sympathiser avec les affections de la personne concernée, cette dernière recherche est aussi à préserver, à conserver. Pardon, cette dernière, la personne principalement concernée, va chercher elle aussi à préserver la sympathie du spectateur. Alors ceci est posé comme un axiome anthropologique qui apparaît dès le début de la théorie des sentiments moraux, je le cite, c'est la première phrase, « Aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature humaine qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur. » On voit donc ici opérer deux systèmes analogiques. D'une part, le système des passions originelles et réfléchies, la réciprocité de la sympathie et l'irréductible différence entre les personnes impliquées dans l'interaction conduisent à un double mouvement. D'une part, la réduction d'intensité du côté de la personne concernée, d'autre part, l'augmentation d'intensité du côté du spectateur. Alors, notons que cette augmentation peut se comprendre à son tour comme une extension de la partialité originelle et naturelle de tout individu, lorsqu'il n'est pas directement concerné, et là c'est évidemment Hume qui est repris. On voit bien ici, dans ce premier système, que l'analogie est précisément ce qui autorise la réduction des différences sans pour autant les annuler. Il y a convergence, mais non identification. Autrement dit, dans le cadre de ce premier système d'expression des affections, savoir celui des passions originelles et des passions réfléchies, l'irréductible différence entre ego et autrui porte la distinction entre les deux ensembles de passions et assure, en quelque sorte, le rapprochement tendanciel en termes d'intensité, et non en termes de genre, entre l'original de l'affect et sa forme réfléchie. D'autre part, il y a le système du plaisir intrinsèque et de la douleur de frustration. Là encore, la réciprocité conduit à l'expression d'un plaisir partagé, celui de la convergence des sympathies, ou à l'expression d'une douleur inévitablement entraînée par l'absence de sympathie. Alors il importe ici de préciser que ce plaisir intrinsèque, une fois partagé, marque l'approbation, c'est-à-dire, du point de vue d'une évaluation sentie, l'accord entre ce qui, d'un côté, relève de l'adéquation entre affection et cause d'affection, et de l'autre, ce qui est éprouvé par le spectateur. L'accord indiqué par un plaisir vaut approbation, c'est-à-dire reconnaissance d'une mesure dans la conduite ou la manifestation de l'affection. Mesure qui ne fait que rendre effective une norme, je cite encore Smith, en toute occasion, ses propres sentiments sont les normes et les mesures au moyen desquelles il juge les mêmes. Ainsi, pour peu que la condition d'impartialité soit remplie, le sentiment du spectateur devient la norme, l'étalon à l'aune duquel peut se mesurer la convenance, propriety, des sentiments éprouvés par la personne principalement concernée. Et la condition d'impartialité se trouve progressivement réalisée par ceci, l'exigence anthropologique de la sympathie réciproque. Par nature, l'individu cherche à conserver la sympathie d'autrui, ce qui pousse les membres de l'interaction à agir pour ne pas interrompre le partage des affections. Alors cela conduit d'une part le spectateur impartial à aviver l'intensité des affections qu'il ressent au spectacle des affections d'autrui, mais cela conduit également la personne concernée à tenter de réduire les manifestations de sa propre passion pour conserver justement cette sympathie. C'est donc la continuité du mouvement itératif des transpositions imaginaires d'ego vers autrui qui garantit pratiquement la réalisation possible de la condition d'impartialité du côté du spectateur et de la condition de la vertu du côté de la personne concernée. Et l'on peut dire enfin que s'approchant de cette impartialité nécessaire et de cette vertu recommandable, les deux protagonistes de la situation morale tendent vers un point d'équilibre qui est un point d'excellence, celui de la parfaite vertu et celui de l'authentique impartialité. Point d'équilibre ou point de convenance parfaite vers lequel on tend, mais dont l'identification et la définition ne sont jamais que des constructions du philosophe. Pratiquement, il est le plus souvent hors de portée. Pour emprunter une image, on y converge asymptotiquement sans y parvenir. On le voit bien, le jeu de la sympathie réciproque, tout en même temps qu'il communique les passions, permet d'ajuster les intensités affectives des protagonistes, et dans cet ajustement se trouvent progressivement réalisées les conditions de légitimité, à savoir l'impartialité, par le moyen desquels on peut affirmer avec Smith que les sentiments du spectateur sont les normes d'approbation ou de désapprobation des affections qui traversent la personne concernée. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur ce résultat décisif. En quoi consiste ici la norme d'évaluation? En clair, quelle différence faut-il faire ici entre la position smithienne et celle vis-à-vis desquelles il se démarque? En gros, pour aller vite, les positions naturalistes et rationalistes. Alors du côté du naturalisme, on constate tout d'abord que la norme se constitue dans le mouvement même de l'évaluation. En effet, il ne s'agit pas pour Smith ici de dire que le spectateur est comme tel susceptible d'éprouver la mesure déjà légitime des intensités d'affection qui le traversent. Il s'agit de dire que c'est dans le mouvement que cette évaluation se fait. Autrement dit, la position d'observateur du spectateur contribue à rendre possible l'émergence
Je précise, lorsque le spectateur observe, et sur ce point Smith reprend Hume, l'affection d'autrui peut être considérée comme une source d'impression. Et cette impression qui l'affecte déclenche par association des idées, des conceptions, dit encore Smith. Ces conceptions secondes, fruits de la double conversion des affections et des impressions, ressortissent à un ordre d'intensité qui est résolument distinct de celui qui caractérise les passions originelles. Et cet écart d'intensité, comme on sait, puisque l'individu a toujours à cœur de vouloir conserver la sympathie de son semblable, est l'objet de réduction. Si donc le spectateur éprouve à un moindre degré, en se mettant à la place de la personne, et si la personne concernée, en se mettant à la place du spectateur, contient une partie de ses affections, alors la volonté réciproque de préserver le plaisir sympathique pousse l'un à augmenter jusqu'à un certain point ce qu'il affecte et l'autre à le diminuer jusqu'à un certain point. Autrement dit, la différence insurmontable entre ego et autrui fait que pour maintenir la sympathie, c'est le degré d'intensité de ce qui pourra être éprouvé par le spectateur qui va tendre vers l'impartialité, qui va fixer la mesure de ce qui est acceptable. Autrement dit, l'autocorrection sympathique qui garantit l'impartialité jusqu'à un certain point assure en même temps la valeur d'objectivité, c'est-à-dire la convenance ou l'adéquation du sentiment éprouvé par le spectateur qui observe, et cela lui confère l'objectivité d'une norme légitime. C'est pourquoi parler d'une sympathie pleine et entière n'est pas autre chose qu'affirmer que l'affection de la personne concernée est à hauteur de ce qui est éprouvé par le spectateur qui l'observe. Si donc la sympathie comme mouvement continué permet de surmonter l'obstacle d'une fausse impartialité, la limite indépassable, celle-ci, entre les deux protagonistes, lorsque cette première condition est réalisée, suffit à faire du sentiment du spectateur la norme de ce qui est convenable. On voit bien que cette condition d'impartialité n'est donc pas toujours déjà réalisée, comme s'il s'était agi d'un sens moral. Elle est un résultat, un effet, qui est porté par la dynamique même de l'interaction. En d'autres termes, elle est une détermination naturelle, certes, mais seconde, ou sociale, si vous voulez. En ceci que pour s'instituer, elle requiert le jeu même de l'interaction. On peut donc dire, donc postuler, que l'opérateur formel du jugement moral, en tant qu'il se soutient d'un contexte qui est ici essentiellement celui d'une interaction sociale, permet de poser les principes d'une constitution des normes qui ne relève pas d'un extérieur, mais d'une confrontation entre des systèmes d'affection, où le jeu des ajustements réciproques conduit à l'identification de mesures d'affection que l'on peut partager, c'est-à-dire de proportion ou d'adéquation. En un mot, de normes motivant l'approbation ou la désapprobation. Alors cette déduction, elle ne consiste pas à affirmer que les seuils d'intensité acceptables dignes d'approbation sont contenus dans la nature. Si le plan privilégié de la manifestation est bien celui de l'affection, il n'en reste pas moins que les niveaux sont construits par les différents moments de l'itération sympathique. Alors du côté du rationalisme maintenant, tout ceci a une autre conséquence qui me paraît très importante aussi pour le propos. La correction sympathique, telle qu'on en a décrit ici le principe, ne fait pas intervenir la réflexion. On peut dire que c'est une des raisons pourquoi nous parlons d'opérateur sympathique. La correction opère et il reste à la réflexion, en quelque sorte, de prendre conscience après de la correction ainsi effectuée par l'imagination. Alors, je vous donne un extrait de citation qui me paraît tout à fait intéressant. Il faut, dans le cas de la correction morale, quelques degrés de réflexion et même de philosophie pour nous convaincre de combiner l'intérêt que nous accorderions au plus grand souci de notre prochain, de combien notre affection causée par ce qui lui arrive serait faible si le sens de la convenance et de la justice ne corrigeait pas l'inégalité naturelle de nos sentiments. Alors il ressort de ceci que l'entendement a changé de rôle. Il n'est plus, comme dans la perspective résolument constructiviste, créateur d'impartialité. Celle-ci ainsi que je viens de l'expliquer, est un résultat porté par le mouvement de la correction. Et l'entendement comprend l'impartialité une fois que celle-ci est établie. Autrement dit, la distinction ici entre création et compréhension, essentielle me semble-t-il à la problématique smithienne de la production des normes morales, est portée là aussi par de très nombreuses métaphores, je laisse de côté. Simplement, le fait d'attribuer à l'entendement une telle fonction de reconnaissance, qui est d'ordre cognitif, ne signifie pas que l'entendement ne puisse pas jouer un rôle. Pour le dire en des termes qui ne sont pas les siens, la prise de conscience ou la reconnaissance est ici également saisie, réflexive. À ce titre, elle est l'occasion d'une systématisation et d'une généralisation. Par où l'on voit comment on peut se faire le lien entre l'ordre affectif, dont la sympathie correctrice assure la manifestation et l'expression, et l'ordre réflexif, qui parvient à ressaisir, en les généralisant, les formes normatives ainsi établies. Alors, il semble bien ainsi que je l'indiquais dans mon tout petit propos liminaire, que le processus de production des normes chez Smith, par le biais de l'opérateur de sympathie, parvienne à éviter le double écueil des théories purement rationalistes de production des distinctions morales et des théories du sens moral ou naturalisme. L'itération sympathique rend pensable et possible la genèse des conditions de partialité et de l'air. Elle coproduit, dans le moment même de l'interaction, le sentiment comme norme ou mesure, et rend possible la prise de conscience de celle-ci, c'est-à-dire sa systématisation, sa généralisation, par un entendement qui découvre. La norme est portée par des seuils d'intensité affective, elle est conditionnée par l'impartialité et la vertu, tout autant qu'elle rend possible ces conditions. Elle est explicitée et généralisée par un entendement qui découvre et construit des systèmes. Alors maintenant, j'en viens au dernier point de mon exposé sur la distinction entre la morale sociale et la morale pure. Une fois qu'on a bien compris ici en quoi consistait ce dispositif et comment, dans un seul et même mouvement, se penser la distinction et les conditions d'évaluation, on peut en venir à des considérations plus générales qui portent sur la description des systèmes de normes tels qu'on peut les trouver dans la théorie des sentiments moraux. Depuis le point de vue de l'individu qui observe et se conduit, on va assister à une dissociation entre deux configurations normatives. Et cette double configuration, elle est portée par un dispositif qui est celui de l'homme intérieur, ou encore de celui qu'il appelle de man within, ou du spectateur imaginaire. On a vu que la morale est tout d'abord ancrée dans l'individu susceptible d'approbation et de désapprobation. On a vu que les sentiments du spectateur sont autant d'évaluations et qu'ils sont également les premiers jalons d'une possible qualification des conduites. Le niveau de généralité atteint y est celui d'une détermination sociale. La question se pose de savoir de quelle manière il est possible pour l'individu empirique singulier de se déprendre de certains de ces jugements communs portés par la morale sociale, et plus encore d'identifier ce qui garantirait la légitimité de telle mise à distance ou de telle contestation. Quelles sont donc les médiations au moyen desquelles l'individu peut contester le jugement du spectateur réel? Nous savons que le dispositif théorique qui va permettre à Smith de rendre compte tout à la fois des principes d'une telle distinction entre système de normes et des médiations qui donnent pertinence et légitimité à ces désaccords, c'est la sympathie. Alors la construction du sentiment d'approbation est mise en scène, comme je l'ai montré, à partir des interactions entre spectateurs et personnes concernées. On a également montré, je me répète mais c'est important parce que c'est un peu technique, que le système secondaire des affections, après action de la sympathie réciproque, du spectateur vers l'agent et de l'agent vers le spectateur, renvoie au problème de l'impartialité et au problème de la vertu. On a vu également que le point de convenance fixait le degré d'intensité passionnelle exact que supposait l'impartialité absolue ou parfaite chez le spectateur. Réciproquement, ce point indique également le degré d'intensité exact que supposerait la vertu parfaite chez la personne principalement concernée. Nous savons également que l'impartialité et la vertu sont les deux faces d'un même mécanisme. Le spectateur ne peut être impartial qu'en face de la vertu de la personne concernée. Et cette vertu ne peut se définir comme telle que par rapport à l'impartialité du spectateur. La partialité du spectateur revient à laisser la personne concernée se complaire dans une passion d'intensité excessive ou au contraire, à exiger d'elle une contention trop grande de la passion. Je cite Smith, « Combien semble déplaisant celui dont le cœur, dit encore Smith, est endurci et obtus. » Pour être impartial, il convient donc d'exiger, ni trop peu, ni trop, seulement ce que la vertu exige de la part de l'agent. Mais inversement, pour exiger ni trop peu, ni trop, il faut que la personne en face du spectateur ne soit ni trop, ni trop peu soumise à son jugement. Si donc le spectateur doit pouvoir faire pression pour conduire l'agent à se montrer moins complaisant vis-à-vis de lui-même, l'agent, lui, doit pouvoir résister à un spectateur trop exigeant. Quelles sont donc les conséquences liées à la possibilité d'établir un tel point de convenance? Eh bien, j'en retiendrai deux, et je me limiterai à ces deux. C'est qu'on trouve chez Smith une conception idéaliste de l'impartialité et de la vertu, et on trouve également chez Smith une conception formelle de la morale. L'autocorrection sympathique ne peut jamais aboutir. Elle signifierait la fusion, c'est-à-dire l'indistinction des deux individus. Il en résulte, et tout ce qui précède le montre, que le point de convenance ne correspond jamais réellement au degré d'intensité des passions effectivement éprouvées. Le point de convenance est ainsi un point abstrait que le philosophe peut idéalement fixer au croisement des tendances portées par les efforts fournis réciproquement. Un point qui n'est jamais atteint, mais qui n'en est pas moins toujours visé par le spectateur comme par la personne concernée. Le premier ne devient donc jamais complètement impartial, là où le second ne devient jamais complètement vertueux. Le point de convenance, dans ce cadre, est donc un idéal à réaliser. Et en ce sens, la vertu doit être pensée comme un effort infini vers cette, je cite Smith, idée d'une convenance, et d'une perfection complète qu'aucune conduite humaine, dans ces situations difficiles, n'a jamais pu et ne peut jamais atteindre. Pour Smith, l'impartialité est donc un idéal pour le jugement, tout comme la vertu, je le cite, est une excellence pour l'action. Si l'homme est bien une créature imparfaite, je le cite, c'est précisément à l'aune de cet idéal d'impartialité et de vertu. Autrement dit, la morale est ici idéaliste en ceci que, d'une part, l'opérateur de sympathie pousse à s'arracher à la réalité et à tendre vers un idéal, même s'il n'est jamais réalisé, et d'autre part, contre Jung cette fois-ci, cet idéal est indépendant de toute comparaison. Deuxième propriété, on peut dire que la morale, au-delà de ce caractère idéaliste, relève d'une conception abstraite ou formelle. Chez Jung, être impartial, c'est épouser le point de vue de l'agent ou de la personne directement engagée dans l'action. Chez Smith, au contraire, l'impartialité n'est pas affaire d'identification à la personne concernée, elle est affaire d'égalisation des intensités passionnelles. Et l'impartialité n'est pas directement liée à une circonstance, elle est d'abord définie de manière formelle. Alors que pour Hume, il convient de se mettre à la place occupée par l'individu principalement concerné, pour Smith, une telle position est repérable abstraitement, c'est-à-dire à condition de ne pas s'identifier aux positions engagées dans l'interaction. Ce point se définit précisément comme équilibre entre des intensités passionnelles. Le spectateur impartial de Hume prend la place de quelqu'un, celui de Smith tend vers une place qui ne définit qu'abstraitement comme représentant le point de convenance. Cette abstraction de l'impartialité n'en renvoie pas moins à un certain contenu, à savoir les circonstances particulières à partir desquelles s'enclenche le processus d'équilibrage des intensités. Ce qu'on peut donc dire, c'est qu'au terme de ce processus, une forme est abstraite. Le spectateur et la personne concernée sont placés dans des circonstances particulières, et ils ont, au terme de ce processus, la possibilité de s'en abstraire. Ces points de convenance sont donc des normes idéales qui ne sont jamais atteintes. Elles indiquent le lieu d'une convergence asymptotique des efforts fournis par les acteurs de la scène morale. Dire qu'elles ne sont jamais atteintes signifie qu'elles ne peuvent pas être incarnées dans la figure d'un individu. Et en cela également, elles peuvent être considérées comme abstraites de toute détermination sociale précise. Nous avons là une des conditions essentielles à l'élaboration du sujet moral smithien. L'existence d'un tel système de normes pures va constituer le point d'appui pour que puisse se distinguer d'un côté le jugement porté par les spectateurs réels qui peut relever de la morale commune et de l'autre côté un jugement porté par un spectateur idéal, du moins un observateur qui détermine les principes de son évaluation à partir de ces normes. Et la médiation ici est donnée par la figure du spectateur intérieur, du spectateur imaginaire, ce que j'envisage rapidement. L'opérateur de sympathie permet de construire le jugement sur autrui et le jugement sur soi, je cite, « Le principe par lequel nous approuvons ou désapprouvons naturellement notre propre conduite semble être entièrement le même que celui par lequel nous formons ces jugements quant à la conduite des autres. » Donc ce qui compte ici, c'est encore une fois l'opérateur formel du jugement et non pas le contenu sur lequel il opère. Autrement dit, la qualité du spectateur ne dépend pas directement de l'objet qu'on observe, mais du point de vue qu'on occupe. À partir du moment où l'on fait l'effort de considérer une situation non pas comme une personne concernée, mais comme une personne indifférente, je le cite, hein, ce sont des expressions qui sont admises, alors on occupe par définition et comme formellement ce point de vue propre au spectateur. Par la sympathie réciproque, la personne concernée fait l'effort de se mettre à la place du spectateur. Elle parvient à devenir non seulement spectateur du spectateur, mais encore spectateur d'elle-même. Je cite Smith. Nous approuvons ou désapprouvons notre propre conduite, suivant ce que nous sentons quand nous plaçons dans la situation de notre homme et la considérant, pour ainsi dire, de ses yeux et de sa position, nous pouvons ou non complètement sympathiser et entrer dans la conduite et dans ses motifs. Cette intériorisation correspond en fait à la division de la personne principalement concernée, je cite encore Smith, « Quand je m'efforce d'examiner ma propre conduite et de rendre un jugement, de l'approuver ou de la condamner, dans tous ces cas, il est évident que je me divise, pour ainsi dire, en deux personnes. Le moi examinateur et juge représente un personnage différent de cet autre moi, la personne dont la conduite est examinée et jugée. Cette intériorisation est donc, en son principe et originellement, une division en deux personnes, le moi examinateur qui juge et le moi examiné qui est jugé. Lorsqu'il y a intériorisation ou division, nous n'avons plus affaire à un spectateur réel, mais bien à un spectateur imaginaire, ou encore, je le cite, un spectateur supposé. Le spectateur réel est désigné comme, je le cite encore, juridiction de l'homme au dehors, et le spectateur imaginaire comme, je le cite encore, juridiction de l'homme au dedans. Mais qu'est-ce donc que ce spectateur imaginaire? Il peut être à l'image précise de quelqu'un de réel, par exemple l'évocation de tel ami à qui je pense, en me demandant ce qu'il dirait de moi. Mais il peut être tout aussi bien quelqu'un de totalement imaginaire, une pure abstraction, un simple, qu'en dira-t-on, sans aucun visage. Le spectateur impartial intérieur, dit Smith, est un homme idéal. Il dit encore que c'est un homme en général, il dit encore que c'est un homme abstrait, ou encore un spectateur abstrait et idéal. Cet homme, contrairement à ce qu'il en est pour Hume, se définit donc négativement par rapport à tout contenu circonstancié. Il est quelqu'un qui n'est placé dans aucune circonstance, je le cite, quelqu'un qui n'est ni père, ni frère, ni ami. En droit, les évaluations d'un tel spectateur intérieur peuvent donc grandement différer de celles du spectateur extérieur. Alors ce point, à mon avis capital, permet de comprendre, entre autres choses, pourquoi les individus peuvent être en désaccord, et plus encore, pourquoi la morale de Smith n'est pas une morale de la contrainte sociale. Certes, d'une certaine manière, le spectateur imaginaire est bien le porte-parole de la société, en ceci qu'il ne peut pas inventer des valeurs qui lui soient propres. À ce titre, il n'est ni ne vient comme une sorte de dieu intérieur à porter les tables d'une loi, mais les jugements qu'il porte sur ces valeurs communes à la société peuvent totalement s'émanciper des jugements sociaux. Ce spectateur n'est donc pas la figure spéculaire de l'opinion commune en matière de critères de distinction entre le bien et le mal, et plusieurs exemples sont donnés sur lesquels je passe. On peut ainsi affirmer que d'un côté, les valeurs morales n'existent qu'en tant qu'elles sont fondées sur le mécanisme sympathique de partage des passions avec autrui, et que d'un autre côté, c'est en menant ce mouvement jusqu'à son terme qu'un homme peut en venir à s'opposer au jugement d'autrui. C'est alors au nom du partage de ses sentiments avec autrui qu'on peut venir refuser le partage du jugement d'autrui. Bien, alors je vais passer sur la théorie de l'expression parce que je crois que ça me prendrait trop de temps, j'avais prévu trop de choses et si je veux tenir le délai, je vais en arriver directement à la conclusion. Que nous apprend la théorie des sentiments moraux sur la question des normes et du gouvernement de soi ? On peut tirer deux sortes d'enseignements de cette lecture. Le premier concerne la question du statut des normes. Le second revient à comprendre qu'il existe, pour le sujet, une possibilité de se confronter à des systèmes de normes et de s'opposer en invoquant des normes d'un rang supérieur. Quant au statut des normes, il me semble que l'intérêt de la construction smithienne tient, ainsi que j'ai essayé de vous le montrer, dans la possibilité qu'elle offre d'une description de la jeunesse des normes qui évite les difficultés du rationalisme naïf, qui voudrait croire que la raison exclusivement produit les normes, ou que, par une détermination purement naturaliste, la norme toujours déjà donnée ne ferait qu'exprimer une nature humaine prédéterminée. Contre tout naturalisme arbitraire, l'opérateur de sympathie permet de montrer qu'il y a bien genèse des normes et, dans le même mouvement, élaboration des conditions de leur légitimité. Si le sentiment moral du spectateur constitue la norme ou la mesure de l'approbation, la légitimité de celle-ci est portée par l'élaboration de conditions, l'impartialité d'un côté, la vertu de l'autre, qui résulte d'un contexte, d'une interaction. En un mot, d'une forme élaborée de situation sociale qui inscrit ses genèses et ses conditions dans une historicité. Si la norme est en partie hantée sur la nature humaine, c'est alors une nature sociale, et par voie de conséquence, elle se construit. En raison de cette dimension d'artifice, d'artefact ou d'expédient, la norme est marquée par un contexte, un espace et un temps donné. Contre le rationalisme naïf, l'opérateur de sympathie permet également de montrer que la contribution de la raison s'adosse à une nature et qu'elle relève plus conformément à la tradition de l'empirisme sceptique, jungien, dont Smith s'inspire tout particulièrement, d'un travail de correction, de systématisation et de généralisation. Par elle-même, la raison ne peut pas grand-chose et son activité est à situer dans ce moment où, prenant acte, c'est-à-dire conscience, de sa partialité, l'imagination réglée parvient à en systématiser les effets, à en conjuguer rationnellement les modalités. Autrement dit, la raison travaille les normes et s'emploie à aviver, les effets de signification qu'elle produit. Mais si la norme se trouve, chez Smith, préservée dans son statut de détermination de la forme d'interaction, c'est en ceci qu'elle exprime, qu'elle est une expression des affects, de certains affects ou de certaines passions. En un mot, la raison est l'occasion d'assurer l'expression en un système réfléchi des passions originelles. Elle est l'occasion de donner prise à une raison commune, parce que les passions réfléchies sont moins vives et moins intenses, à une raison commune qui infléchit, corrige et généralise. Sur ce plan, on pourrait tout à fait reconduire à la lecture jungienne du travail de la raison sur la nature humaine, ce qui la rend effective et bien la conditionnabilité de la nature, c'est-à-dire son aptitude à la transformation. Gageons que sur ce plan, la norme de conduite morale, sociale, est l'institution par excellence qui marque l'effectivité de cette conditionnalité, qui la rend opératoire, en un mot, qui manifeste le lien de la nature et de l'artifice. C'est bien parce que Smith, à la suite de Hume, n'exclut pas la raison, mais ne la retient pas exclusivement, pour paraphraser Pascal, qu'il donne à la norme, entre affection et raison, une affectivité et une expressivité, c'est-à-dire un statut mixte qui lui garantit son opérativité, c'est-à-dire sa capacité à indiquer ce qui est préférable, sinon recommandable, et par voie de conséquence à porter une approbation ou une désapprobation dont la force motivationnelle se trouve préservée par le plaisir et la douleur qui l'enveloppe. Enfin, sur l'autonomie du sujet moral, et ça sera mon dernier point, l'autonomie chez Smith trouve son ancrage dans la possibilité d'une démarcation entre les deux morales. Et c'est au travail de l'imagination, d'abord, que l'on doit l'effectivité d'une telle démarcation. La recherche infinie du point de convenance parfaite, d'un côté, l'identification toujours inachevée au point de vue de la parfaite impartialité de l'autre, sont des conditions anthropologiques, l'imperfection de la nature humaine dont parle Smith, qui autorise ici le dépassement de la morale commune dans une morale pure et qui assume et assure l'émancipation du sujet, de l'individu. Si la morale commune trouve sa pertinence dans des valeurs moyennes, que l'expérience des interactions morales et sociales légalise dans des régularités et dans des affections stabilisées, les sentiments moraux, il reste à l'individu, doté d'intériorité, la liberté de s'en démarquer en de certaines circonstances, depuis une instance plus élevée, qu'il appelle encore tribunal de la conscience, qui, en raison même de cette communauté d'affection, peut produire un désaccord entre jugements communs et intérieurs. Cette possibilité non plus n'est pas donnée dans un acte originel et constitutif d'une raison régulatrice, elle est une circonstance particulière d'affection qui ouvre la série des multiples mises à distance et qui donne ainsi à l'imagination l'occasion de se dédoubler.